Je suis aujourd'hui en compagnie de Mathieu Dalmet, agronome et membre d'Ingénieurs sans frontières, et de Jean-Bernard Thomas, paysan et dans la Confédération paysanne de Creuse. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour une conférence gesticulée à Royères sur la sécurité sociale alimentaire. Avant d'expliquer cette idée, j'aimerais que vous nous brossiez un peu le tableau de la situation agricole et alimentaire en France aujourd'hui. Jean-Bernard, est-ce que tu pourrais un peu nous dire à quoi ressemble la vie d'un agriculteur moyen aujourd'hui ? Quel est son revenu, son endettement, son âge ? Voilà, un tableau un peu, un peu général, que je te prends de court.
La vie d'un agriculteur moyen, alors je vais prendre surtout l'exemple de la Creuse, ça sera plus facile et tout le monde comprendra. Donc la Creuse, département essentiellement tourné vers l'élevage. Donc la vie d'un agriculteur moyen, c'est surtout du travail et de l'inquiétude par rapport à ce qui va se passer avec, par exemple, avec ce qui va se passer avec la nouvelle PAC. En plus, cette année, il y a eu encore la sécheresse, donc c'est des difficultés pour certains agriculteurs. Alors il y a des petites lueurs d'espoir, mais tout n'est pas rose aujourd'hui pour un agriculteur en Creuse.
Et à l'autre bout de la chaîne de transformation et de distribution, comment s'alimentent et s'approvisionnent les Français aujourd'hui ?
Alors une bonne partie de l'alimentation se fait par les grandes et moyennes surfaces. Surtout après le confinement, il y a une petite montée il y avait déjà une consommation qui était locale et de proximité, avec des producteurs locaux. Mais là, avec le confinement, par exemple sur la Creuse, c'est quelque chose qui a sensiblement augmenté. Ça va certainement durer parce que c'est des habitudes qui ont été prises. Mais essentiellement, la consommation alimentaire, c'est des GMS, quoi. C'est pas uniquement des consommations avec des petits producteurs.
GMS, ça veut dire...
Alors GMS, c'est les grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire c'est les supermarchés. Et par exemple, pour la viande, les trois quarts de la viande consommée en France est achetée dans ces structures.
Et donc, est-ce que les agriculteurs, aujourd'hui, gagnent leur vie avec leur métier ou est-ce qu'ils sont dépendants des aides, des subventions ?
Ça dépend de ce qu'on appelle gagner leur vie. De toute façon, ceux qui gagnent leur vie, c'est au prix de beaucoup de travail, beaucoup d'inquiétudes, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de soucis parce qu'il faut assurer les fins de mois, les charges, parfois les emprunts. Mais alors, il faut dire aussi qu'il y a des agriculteurs... Ça va, s'il y a des agriculteurs, c'est l'agriculture qui va bien. Si on prend l'exemple des céréaliers du bassin parisien ou de certains viticulteurs ou de petites niches, il n'y a pas de problème pour eux. Par contre, tous les agriculteurs qui sont sur des petites structures, qui font des productions qui sont peu ou mal valorisées, c'est très dur pour eux. Et alors, il y a encore des lueurs d'espoir, c'est-à-dire surtout sur la Creuse, par exemple, il y a des marchés qui sont en pleine expansion, il y a des ventes directes, la consommation locale, il y a le pôle viande qui commence à fonctionner à Bourganeuf. Donc tout ça, c'est du long terme silencieux, mais il faut être optimiste de ce côté-là.
On constate, comme vous avez dit, un intérêt croissant pour l'alimentation, le bio, les circuits courts, ils sont en augmentation, les AMAP, les magasins de producteurs, etc. Et j'aimerais que Mathieu dise pourquoi ces changements, ils sont pas suffisants et pourquoi vous proposez quelque chose de structurel au lieu de tabler sur des changements locaux, des changements de consommation, etc.
Toutes ces alternatives aujourd'hui qui continuent de croître en termes de part qu'elles vont prendre dans l'alimentation, elles sont contraintes par un plafond de verre qui va empêcher leur généralisation. C'est-à-dire que à partir d'une certaine taille, il y a des acteurs qui vont venir et qui vont récupérer ces alternatives, que ce soit dans l'industrialisation de l'agriculture biologique et sa récupération par la grande distribution, et la façon dont ça attaque les biocoop dans lesquels on voit des mouvements de grève aujourd'hui, parce que bah, forcément, quand on cherche à être concurrentiel avec des gens qui sont sur des volumes d'activité beaucoup plus forts, avec des économies d'échelle extrêmement fortes, ça devient très compliqué. Et puis, sur les circuits courts aussi, avec des acteurs comme La Ruche qui dit oui et autres, qui viennent, qui font de la concurrence. Et globalement, moi, le constat auquel j'ai été amené quand je travaillais à la Confédération Paysanne Nationale sur ces questions de relocalisation, c'était de dire que quand bien même ça se développe encore et ça permet un peu de s'en sortir mieux que dans le reste du système classique de production agricole en filière longue, c'est pas suffisant et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que les marges et les libertés que ça permettait sont en train d'être diminuées globalement, massivement, avec des gens à droite à gauche qui pensent s'installer en circuit court et autres et qui se cassent la gueule, qui n'y arrivent pas ou qui arrêtent très rapidement. Et des paysans qui défendaient qu'il fallait arrêter d'installer des jeunes paysans sur le même type de système que eux faisaient, parce que tout le monde allait se faire de la concurrence sur les marchés locaux et qu'ils n'arriveraient pas à en vivre. Et qu'en fait, le public qui vient consommer ces produits-là, même s'il est en augmentation, ça reste encore très, très limité et complètement insuffisant pour s'attaquer à l'ensemble de la production agricole. Il ne faut pas perdre des yeux que l'agriculture biologique n'a cessé d'augmenter dans la production depuis les années 80 et qu'en même temps, la consommation de pesticides en France n'a cessé d'augmenter dans les années 80. Donc ce n'est pas les petites alternatives qu'on met en place, quand bien même elles font vivre des paysannes et des paysans un peu mieux que le reste. Elles permettent à des gens de s'alimenter, mais ce n'est pas elles qui sont de taille à s'attaquer à l'ensemble de la distribution alimentaire qui se passe en grande partie dans les GMS, c'est vrai, mais qui se passe aussi pour 8 millions de nos concitoyens, c'est quand même un chiffre considérable, dans l'aide alimentaire aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout le choix de leur alimentation et auxquelles on leur donne les rebuts du système alimentaire industrialisé, les déchets, ce dont les autres ne veulent pas, pour limiter les pertes de surproduction du système industriel en défiscalisant ces surplus tout en les donnant à des pauvres. Donc c'est aussi une façon de s'alimenter extrêmement forte pour toute une partie de la population qu'il ne faut pas laisser de côté et inclure dans l'idée de dire comment on nourrit correctement tout le monde.
C'est pour ça que je trouvais intéressant votre conférence que j'ai regardée sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui s'intéressent à l'écologie, à la production alimentaire, etc., mais qui sont dans une logique de changement individuel et qui pensent que ça suffit pour des changements structurels.
Oui, c'est à la fois des changements structurels et en même temps décider collectivement de ces changements structurels, c'est-à-dire ne pas penser que parce qu'on donnerait assez d'argent à tout le monde, demain l'agriculture irait bien. Individuellement, avec de l'argent, en tant que consommateur, on est tous confrontés à différents choix. Dans son porte-monnaie, on a envie de partir en vacances, on a envie d'avoir accès à des loisirs et autres. Et l'alimentation, ça reste toujours la variable d'ajustement du budget, le truc sur lequel on va venir taper dedans ou manger un peu des pâtes ou des produits de moins bonne qualité pour pouvoir s'offrir autre chose dans le monde culturel dans lequel on est, qui va valoriser la consommation un peu de partout et dont il est individuellement très difficile de s'extraire. Et c'est bien pour ça que l'idée de dire qu'il faut construire collectivement un autre rapport à l'alimentation et se poser non pas en tant que consommateur mais en tant que citoyen la question de qu'est-ce qu'on veut manger et en tant que citoyen définir l'orientation des politiques agricoles, définir ce que les paysannes et les paysans doivent produire avec une rémunération qui convienne en face pour sortir de cette logique libérale.
Pourquoi s'inspirer du modèle de la sécurité sociale pour transformer notre manière de produire et de manger ? Est-ce que des aides supplémentaires pour les gens qui actuellement bénéficient de l'aide alimentaire ou des paysans en difficulté, est-ce que ça ne serait pas suffisant finalement pour résoudre les problèmes qu'on vient d'évoquer ?
Personne n'a envie de vivre d'aide, personne n'a envie d'être défavorisé ou en difficulté. Et l'idée, c'est de dire, en fait, il y a des droits. Il y a des droits pour les travailleurs, qui est de pouvoir vivre de son métier, d'être rémunéré pour ça. Et donc, un paysan, à partir du moment où il travaille, il n'est pas responsable de la sécheresse qui arrive ou d'autres choses. Et donc, il n'y a pas à avoir des aides pour pallier à des difficultés. Il a juste à être rémunéré pour son travail. Et donc, à partir de là, mettre en place un système où on achète la production au coût de revient, avec un travail sur le coût de revient, et on assure les salaires des paysans avec ce système-là, avec le principe du conventionnement qu'on va prendre sur la sécurité sociale de santé pour choisir les personnes, enfin en tout cas à quel niveau de qualité on veut travailler, on veut manger. Et pareil pour les personnes, hein. Il s'agit d'assurer le droit à l'alimentation, il s'agit de permettre à tout le monde d'avoir accès à une alimentation choisie. Il ne s'agit pas de dire aux pauvres qu'ils sont pauvres, mais quand même, on veut bien les nourrir en leur faisant un petit aménagement spécial dans les dispositifs caritatifs. Et il y a un côté discriminant, extrêmement humiliant ou autre, et puis quelque chose de beaucoup moins résilient face à tout changement de système politique. Donc en fait, nous, ce qu'on a travaillé en tant que Confédération Paysanne Nationale, et après avec d'autres acteurs aussi, c'est de dire le changement ne peut pas du tout s'effectuer à échelle individuelle ou à l'échelle de projets locaux. Il y a besoin de politiques macroéconomiques qui vont élaborer la demande alimentaire de façon démocratique, demander aux gens ce qu'ils veulent manger et à partir de là transformer la production agricole pour qu'elle corresponde à ce que les gens ont envie de manger en tant que citoyen, pas en tant que consommateur. Et en même temps, il y a besoin de ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est assurer l'accès de tous à ces produits qui veulent être mangés. Hein, c'est de dire, on ne va pas transformer l'ensemble de l'agriculture vers de l'agriculture paysanne parce que tout le monde a envie qu'on respecte l'environnement et qu'on produise bien, si derrière, les gens ne peuvent pas se payer ces produits-là et sont obligés d'importer de l'alimentation de mauvaise qualité. Et du coup, en conséquence aussi, nous, exporter l'agriculture paysanne chouette qu'on va produire. Il n'y a aucune durabilité du système alimentaire là-dedans, il n'y a aucune pérennité du système alimentaire si on ne commence pas par penser l'accès de la population aux produits qui sont produits sur le territoire. Et après, la durabilité, elle se travaille dans tous les critères de qualité qu'on va mettre à la production pour respecter l'environnement, pour respecter les droits des paysans et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ces enjeux-là. Et après, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un outil. C'est un outil pour répondre à ces enjeux-là et c'est un outil pour les mettre en avant. Voilà, mettre en avant qu'on transformera pas de façon durable l'agriculture si on ne transforme pas aussi l'alimentation et si on ne s'attaque pas à relier les droits des paysans et le droit à l'alimentation. Et de ces questions-là, comment on respecte l'environnement aussi, d'attaquer les trois de front ensemble avec un mécanisme démocratique. Et donc à partir de là, en fait, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il est né dans l'idée de réfléchir à comment on peut s'attaquer à mettre ça en place. Ce sont des objectifs utopiques, radicaux, quoi, de dire on respecte les droits du travail et le droit de l'alimentation. Ça semble pas incroyable, mais c'est quand même très loin de l'organisation du système économique qu'on a aujourd'hui. Et donc de se dire comment on peut faire pour le penser ça de façon la plus pragmatique possible. Et donc pourquoi pas copier un mécanisme qui a déjà eu lieu en France, qui n'est plus d'actualité, hein, la sécurité sociale, en tout cas ce sur quoi on s'inspire, c'est l'organisation du régime général de sécurité sociale entre 1946 et 1967, tel qu'il a existé jusqu'aux premières attaques de Gaulle, sur son fonctionnement démocratique, sur comment des travailleurs vont créer des caisses, vont les gérer, et ces caisses vont assurer l'accès de tous aux soins et décider de qu'est-ce que c'est que le soin en France, décider de conventionner des producteurs de soins, des médecins, des infirmières, pour les payer, tarifer leurs actes et ainsi de suite, pour qu'ils puissent vivre et que ce soit accessible pour tout le monde, et construire des hôpitaux, même se doter de nouveaux outils de production de soins en investissant dans la construction d'hôpitaux et ainsi de suite, et ainsi assurer à la fois la santé pour tout le monde et des bonnes conditions de travail pour les médecins, les infirmières et tout ça. Et après, ce système est encore, hein, d'après Christine Lagarde, qui était ministre et qui est au FMI aujourd'hui, le système de santé le plus efficace au monde, malgré toutes les attaques qu'il a eues. Il y a des bonnes bases, il y a quelques failles dans ces bonnes bases sur lesquelles qu'on travaille pour les améliorer, mais il y a des vraies bases intéressantes pour se doter d'un mécanisme de socialisation de l'agriculture et de l'alimentation qui n'est pas une étatisation, qui n'est pas remettre à l'État le fait de s'occuper des paysans et de ce qu'on doit manger, qui est de se dire comment, en tant que citoyen, on se réapproprie ces questions et on se dote d'un outil collectif pour penser notre agriculture et notre alimentation.
Parce que la sécurité sociale, au début, c'était public et c'était pas étatique. Les caisses étaient indépendantes du budget de l'État.
Oui, elles le sont toujours sur le papier, mais donc l'État a repris la gestion. Donc c'est encore l'État qui gère ça. Par contre, le budget reste indépendant de celui de l'État encore aujourd'hui.
c'est fait la transition parfaite pour parler des modalités concrètes de la sécurité sociale alimentaire cette fois.
Ouais, donc on a abandonné la terminologie de sécurité sociale alimentaire, on parle de sécurité sociale de l'alimentation.
Ok.
Pour insister sur le fait que c'est pas une déclinaison sur l'alimentation d'un mécanisme existant, c'est vraiment construire les bases d'une nouvelle branche de l'ensemble du système de l'alimentation. Et donc on travaille, donc à la base, l'association Ingénieurs sans frontières, agriculture et souveraineté alimentaire, donc un groupe d'agronomes auquel j'appartiens et qui réfléchit à transformer son métier, on est parti sur se dire, bah tiens, on pourrait réfléchir à ce que ça donnerait de réaliser ces deux objectifs, d'élaborer démocratiquement la demande alimentaire et d'assurer l'accès de tous. On a rédigé les bases que je vais vous présenter maintenant et qu'on continue de travailler aujourd'hui avec un collectif d'organisations composé de la Confédération Paysanne, des amis de la Confédération Paysanne, de réseau CIVAM, de réseau Salaria, d'une association d'éducation populaire qui est l'Ardeur, de chercheurs sur les questions de démocratie alimentaire, d'une mutuelle, d'une association de consommateurs aussi, l'UFAL, l'Union des familles laïques qui réfléchit à la politique de la famille. Et donc avec toutes ces organisations, bah, on commence à travailler autour de trois grands principes que sont: 1, l'universalité de l'accès. On crée un mécanisme qui est pour tout le monde, et surtout pas un mécanisme discrétionnaire pour les pauvres. De la même façon que tout le monde a une carte vitale dans sa poche, et ben on rajoute sur cette carte vitale, par exemple, 150 euros par mois par personne pour des dépenses alimentaires. Le deuxième point, c'est pas pour n'importe quelle dépense alimentaire, et c'est pour des dépenses alimentaires choisies collectivement. Et donc on va conventionner les professionnels qui seront accrédités pour fournir ce système-là, et on va choisir collectivement l'alimentation qui nous convient. Et donc soit on conventionnera des paysans et des transformateurs et des distributeurs un peu de partout qui sont chouettes, et puis s'il n'y a pas assez, et il n'y aura certainement pas assez par rapport au niveau de qualité qu'on sait que les gens auxquels aspire la population quand on réfléchit en tant que citoyen et pas en tant que consommateur, et ben conventionner sur de la transition de système pour des personnes qui ne produisent pas aujourd'hui ces critères de qualité qui conviennent, ou même, ce sera certainement, et même installer des paysannes et des paysans nouveaux pour produire cette alimentation dont on aura envie, et installer avec un autre système, de la même façon que des cantines aujourd'hui mettent en place des régies publiques en salariant une personne sur les questions agricoles pour fournir pour la cantine. En salariant ces personnes, on peut proposer aussi aux paysans qui sont déjà installés, s'ils souhaitent passer sous statut directement de salarié et livrer l'ensemble de leur production à ces caisses. Mais ce n'est pas indispensable. On peut tout à fait fonctionner avec un fonctionnement où on travaille sur un contrat prix-volume garanti de façon pluriannuelle pour avoir une vision dans le temps, avec un prix qui est travaillé à partir du coût de revient des agriculteurs. Et assurer comme ça des bonnes conditions de travail aussi pour effectuer une transition de système. Et donc voilà, c'est ça que nous permet le conventionnement, c'est de ne pas décider uniquement dans le rayon individuellement, mais de décider de qu'est-ce qui arrive dans le rayon, et donc d'avoir effectivement une capacité de transformation de l'agriculture par la demande alimentaire. Et après, on sait que on pourra en discuter. Un des gros freins à la transition de système agricole, c'est le fait d'être assuré que sa production, elle pourra être vendue à un prix rémunérateur et autres. Et d'assurer ces conditions-là nous permet d'être un vrai levier de transformation, enfin de la transformation, on va dire, agroécologique à laquelle on aspire pour l'ensemble de l'agriculture de façon assez urgente. Et le troisième et dernier système, enfin pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de financer ces 150 euros par mois par personne par une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc un peu pareil que pour l'ensemble des autres piliers, on s'inspire fortement du régime de sécurité sociale tel qu'il a existé à partir de 1946, mais en l'améliorant un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser, on ne va pas mettre l'assiette de cotisation sur les salaires, qui est une partie de la valeur ajoutée, mais prendre l'ensemble de la valeur ajoutée, donc prendre aussi sur les investissements, enfin toutes les profits qui servent à la fois aux investissements ou aux profits privés, de façon notamment à ne pas augmenter le coût du travail par rapport à des robots ou à d'autres façons de faire de la valeur ajoutée aujourd'hui et de pouvoir prendre de façon équitable sur l'ensemble de ces produits-là. Les piliers, la cotisation a le gros intérêt de laisser ce système indépendant de l'État. On n'a pas besoin de l'État pour collecter un impôt pour rediriger ensuite vers la sécurité sociale. C'est directement un mécanisme qui vient le financer sans l'intermédiaire de l'État. Et de ne pas se baser sur des taxes qui seraient souvent sur des choses qu'on ne veut pas avoir. De se dire, bah non, en fait, s'il y a des choses qu'on ne veut pas avoir, on les supprime. Et on est indépendant de systèmes qu'on ne veut plus voir.
Si je résume les trois piliers, donc il y a universalité de l'accès,
conventionnement démocratique, par démocratique. Sécurité sociale.
Et le troisième, cotisation sur la totalité de la valeur ajoutée. Ça, c'était une question. C'est un truc qu'on a pu observer avec la sécurité sociale, c'est que des grands groupes pharmaceutiques récupèrent une partie des profits. Là, ce qui empêcherait des grands groupes agroalimentaires de récupérer une partie des profits, ça serait...
Ouais, je ne l'ai pas détaillé, mais dans le mécanisme de conventionnement, on se base sur le fait d'avoir un prix rémunérateur pour l'ensemble des producteurs qui travaillent. Il s'agirait aussi pour les distributeurs conventionnés de pas être au SMIC avec des petits contrats de travail qui sont dans ces systèmes-là. La corollaire de ça, c'est on interdit aussi le fait de faire du profit privé sur cet argent-là. Si on socialise une partie de nos ressources pour se doter de moyens collectifs pour assurer du droit, on sort cette partie de l'économie de la capacité de faire du profit privé. Donc on rémunère un prix rémunérateur pour les travailleurs, un prix qui va couvrir le taux d'investissement et autres de cette chose-là, et rien de plus. On interdit toute organisation qui va faire du profit privé sur ce mécanisme. On ne conventionne pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne conventionne pas avec la grande distribution si on n'a pas le choix, mais c'est en tout cas de dire sur les produits qui seraient dans les rayons conventionnés pour la grande distribution, on assure que les marges de la grande distribution qui sont nécessaires pour couvrir les investissements et le travail des personnes qui sont là-dedans ne correspondent qu'à cela et pas plus, et encadrer les marges si on veut qu'il y ait un conventionnement de ces produits. Et si la grande distribution n'est pas d'accord, on construit à côté un magasin pour mettre en place la vente de ces produits conventionnés. Donc ça, c'est indispensable. Oui. En fait, c'est quelque chose qui existe dans la sécurité sociale, mais pas pour les produits. Ça existe pour la production de soins par les médecins et les infirmières. Il n'y a pas de Sanofi des médecins qui existe ou autre. Il y a interdiction de récupération capitaliste sur le travail de la production de soins. En tout cas, il y avait, jusqu'à ce que ce verrou-là saute en 2015 avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Mais ça a duré quand même très longtemps. Ça a tenu plus de 70 ans. Et donc, on peut envisager de le mettre pour l'ensemble de la production.
Et donc, ça serait les caisses au niveau local qui décideraient des critères de conventionnement, c'est ça ?
Oui, on serait sur différentes échelles, en tout cas... bien garder une échelle locale pour assurer une appropriation citoyenne de ces questions. Et pas que, c'est-à-dire qu'il y a des questions, comme par exemple le changement climatique ou la lutte sur la perte de la biodiversité, qui n'ont pas vocation à être traitées à échelle locale. Elles peuvent l'être, bien sûr, par contre, quand c'est fait, il faut en discuter avec d'autres pour savoir si tout le monde le pense de la même façon et créer du mieux-disant d'un point de vue collectif. Et donc de dire que... il faut trouver à chaque échelle qu'est-ce qui est pertinent de faire. On ne va pas décider dans les caisses, quand on parle de démocratie alimentaire, de quelle doit être la recette de tel ou tel plat non plus. On va laisser les gens cuisiner comme ils ont envie avec ces produits et choisir les produits qu'ils veulent. Mais par contre, y a des enjeux qui dépassent l'échelle locale largement. Et notamment, par exemple, les deux enjeux que je viens de dire, d'assurer un prix rémunérateur à minima et qui est absence de profit, Ça, ce serait deux critères de conventionnement nationaux qui seraient interdits de passer en dessous. Voilà. Et donc, c'est d'avoir des caisses localement qui décident de quels sont les producteurs qui vont être conventionnés et ainsi de suite. Mais après, se doter d'outils à échelle plus large, nationale, pour répondre aux enjeux qui dépassent les critères locaux.
Et donc là, ça fait combien de temps que vous faites des conférences gesticulées sur ce sujet en France ?
Moi, j'ai construit cette conférence beaucoup sur le premier semestre 2019. Et je tourne un petit peu de partout depuis septembre 2019 avec une grosse pause liée au coronavirus. Voilà, je travaille dessus depuis 2017 avec les copains d'Ingénieurs sans frontières. Petit à petit, on a mobilisé d'autres réseaux, notamment Réseau Salariat. Bernard Friot, avec qui on a échangé, a décidé de travailler un peu là-dessus sur la fin 2018. Réseau Salariat d'embrayer le pas et ainsi de suite. Et depuis février 2019, on a vraiment lancé un collectif de travail avec toutes les organisations que j'ai citées tout à l'heure pour travailler ensemble et porter ensemble cette question.
Et cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, on peut la retrouver sur Internet à...
Oui, on a eu une page qui va prendre un petit peu le... qui décrit l'ensemble des membres. Et des productions, on la retrouve, c'est sécurité-sociale-alimentation.org.
Sécurité-sociale-alimentation.org. Et est-ce que vous avez d'autres pistes d'action pour visibiliser cette proposition ? Comment vous comptez engager un rapport de force un peu avec les institutions pour faire passer cette...
Pour l'instant, on ne travaille pas sur le rapport de force, on travaille sur... l'éducation populaire et le fait de faire connaître la nécessité de penser conjointement droit à l'alimentation et droit des paysans pour transformer l'agriculture et du coup de se doter de mécanismes pour penser une démocratie alimentaire et un accès de tous à une alimentation de qualité. Et donc il y a la conférence gesticulée, on fait des petites vidéos, on écrit des tribunes, des choses comme ça, et on essaye de dynamiser tout un tas d'acteurs locaux qui sont intéressés par cette question et qui veulent se revendiquer en créant des projets qui essayent de rendre accessible à tous une alimentation de qualité tout en étant insuffisant dans ce qu'ils peuvent traiter, mais indispensable pour faire naître cette question, l'ancrer dans des territoires et la concrétiser un petit peu dans notre imaginaire.
Et donc, si on est une structure et qu'on a envie de vous faire venir pour faire une conférence gesticulée, on vous envoie un mail.
Oui, tout à fait.
Okay. À Mathieu.
Mathieu.dalmet@laposte.net.
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non, merci à vous, à l'action. Hein. C'est une action qui. Voilà, qui vient en complémentarité avec aussi le fait de tenir des médias locaux pour informer la population et tout ça. Donc, merci à vous pour cette interview.
J'étais avec Mathieu Dalmet, agronome et membre d'Ingénieurs sans frontières, et Jean-Bernard Thomas, paysans impliqués dans la Confédération paysanne de Creuse.